et versets du premier chapitre. Donc, Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous les saints dans le Christ Jésus qui sont à Philippe. Avec les surveillants et les serviteurs, grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 21. Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, un gain. Si je dois vivre dans la chair, il en vaut bien la peine. Ce que je dois choisir, je n'en sais rien, mais je suis pressé des deux côtés, ayant le désir de déloger et être avec Christ, car cela est de beaucoup meilleur jusque-là. Chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, si quelque soulagement d'amour, si quelque communion de l'esprit, si quelque tendresse et quelque compassion, rendez ma joie accomplie en ceci, que vous ayez une même pensée, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose. Que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lequel étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes. Étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploient tous genoux des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Chapitre 3e. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. 7. Les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte, et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes, et je les estime comme des ordures, afin que je gagne Christ, et que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice, qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu, moyennant la foi, pour le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort, si en quelque manière que ce soit, je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Je poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ, verset 14, je fais une chose, une seule, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons ce sentiment. Ensuite, il y a le lavage des pieds, chapitre 4. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, ardemment désirés, ma joie et ma couronne, heureux ainsi ferme dans le Seigneur bien-aimé, je supplie Évodie et je supplie Saint-Tige d'avoir une même pensée dans le Seigneur. Verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Ensuite, les instructions à faire, les choses qui plaisent à Dieu. Verset 9, faites ces choses et le Dieu de paix sera avec vous. Verset 12, je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance en toutes choses et à tous égards. Je suis enseigné aussi bien être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. La conclusion, verset 23, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. On voudrait lire un verset dans Acte 26, qui nous fera mieux comprendre les pensées et le cœur de l'apôtre. 26-29. Acte 26, le seul verset 29. C'est Paul qui, devant le tribunal, répond à Agrippa, le roi d'Israël en ce moment-là. Tu me persuaderas bientôt d'être chrétien, dit Agrippa. Paul dit, plût à Dieu que non seulement toi, mais aussi tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, vous devinciez de toute manière tel que je suis, hormis ces liens. Alors ces liens ont été la part de l'apôtre. C'est probablement le dernier souvenir que nous avons d'un apôtre libre, au chapitre 26 des Actes, lorsque il monte à Jérusalem, ne sachant pas Il l'a dit aux anciens d'Éphèse au chapitre 10, ce qui l'attendait, sauf que des liens et de la tribulation l'attendaient. Effectivement, il est monté à Jérusalem pour sa capture. Nous savons qu'il a passé 2 ans de prison à Césarée et 2 ans dans la prison à Rome. C'est son premier emprisonnement. Il a été ensuite libéré et il a écrit les épîtres à Timothée, la deuxième en particulier, probablement aux environs de l'année 66. Son martyr se situe aux environs de l'année 67. Sa captivité à Rome se situerait dans les années 62-63. Donc nous sommes, au moment où il a écrit l'épître aux Philippiens, à 3 ou 4 ans de son départ. Nous avons le tableau merveilleusement rafraîchissant d'un homme qui est parfaitement libre, complètement dégagé des circonstances, en même temps que complètement engagé. Engagé dans l'œuvre de Dieu, dans le développement, dans le déploiement et dans la révélation des conseils les plus élevés de Christ et de l'Église, l'Épître aux Éphésiens et contemporaine de l'Épître aux Philippiens, et en même temps, un homme qui descend suffisamment dans le détail des circonstances pour renvoyer un esclave fugitif à son maître, c'est l'Épître à Philémon. C'est extraordinairement rafraîchissant de penser à ce qu'a été Paul. En même temps, rien ne peut être plus touchant que de voir la fin du ministère libre de l'apôtre, puisqu'il est maintenant en prison. Il parle dans ses 4 épîtres de la captivité, de ses liens. Nous avons un homme parfaitement heureux, le seul homme qui a été heureux devant ce tribunal de gens importants et solennels, où on voit Agrippa qui représente toute la gloire factice du monde. Le seul homme, c'était ce pauvre homme prisonnier, qui allait être prisonnier, qui était tout seul, qui n'avait point d'amis, qui avait vieilli dans son service et qui en même temps avait un esprit qui était perpétuellement renouvelé. Quel bonheur, quelle grâce. Plus à Dieu que non seulement toi. Et tous ceux qui m'entendent, vous fussiez de toute manière tel que je suis, hormis ces liens. Voilà ce que nous avons à désirer pour chacun de nous, certainement, bien que l'apôtre est un modèle qui est inimitable, et lui-même était un modèle, celui qui a suivi Christ, et Christ lui-même était ce modèle parfaitement inimitable. L'apôtre peut dire d'ailleurs 2 fois, une fois avant sa captivité, une fois après, soyez mes imitateurs, frères comme moi aussi je le suis de Christ. On trouve donc un apôtre heureux qui désire communiquer son bonheur à d'autres. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La joie n'est pas séparée de la présence de Christ. En même temps, c'est un apôtre qui a connu les larmes et les peines et les souffrances comme personne d'autre ne l'a fait. C'était la fidélité dans le service. En Colossiens 1, il se réjouissait de ce qui restait à souffrir, des souffrances, des afflictions de Christ pour l'Assemblée. C'était la forme que prenait pour l'apôtre en prison son ministère à l'égard de l'Assemblée. Il avait dépenser son énergie sans compter pour la prédication de l'Évangile aux nations, c'était la première partie de son ministère. La seconde partie, c'était de souffrir maintenant pour l'Assemblée, pour Christ, pour sa chère Assemblée. Christ a souffert pour nous sauver, maintenant le Saint-Esprit rassemble et engage à la suite de Christ des serviteurs fidèles comme l'apôtre pour rassembler au nom de celui qui rassemble. Nous avons donc un homme qui est heureux, un homme qui souffre. C'est une des rares l'occasion où l'apôtre parle de la raison de ses pleurs, de ses larmes. J'en ai un verset que nous n'avons pas lu, je retrouve au verset 18 du chapitre 3, plusieurs marches dont je vous ai dit souvent et dont maintenant je le dis même en pleurant qu'ils sont ennemis de la croix du Christ. Paul a dû pleurer sur l'état terrible, triste de l'assemblée. Alors qu'était devenue cette assemblée si chère aux yeux de Christ, au cœur de Christ? Il avait été formé dans les temps glorieux du début de l'Église, il a été formé dans la puissante action de l'Esprit Saint au début du livre des Actes. On ne peut pas dire qu'il n'en restait plus grand-chose, parce que l'Assemblée continuait à se former, et que restait-il de ce témoignage puissamment formé au début? Eh bien, bien du mélange. L'apôtre est déjà arrivé à ce moment où il est obligé de dire, chapitre 2, au verset 21, « Tous cherchent leurs propres intérêts, et non pas ceux de Jésus-Christ ». Il n'est pas abandonné, puisque plusieurs ont pensé à lui, Épaphrodite, d'autres. Mais, en fait, il y a déjà le déclin qui s'est installé dans l'Église. Dans la seconde épître à Timothée, ce sera encore plus marqué, puisque tous ceux qui étaient en Asie l'avaient abandonné. Dans sa première défense, personne n'a été avec lui, sauf Luc, et sauf Onésiphore, qu'il avait cherché avec beaucoup de soin, et qu'il avait finalement trouvé à Éphèse. Alors, devant l'Assemblée qui ne va plus avoir les soins merveilleusement attentifs de l'apôtre, puisque l'apôtre est maintenant en prison, quelles sont les ressources? Aucune succession apostolique, chose tout à fait remarquable. Et l'apôtre ne prend pas le titre d'apôtre, mais au contraire d'esclave, esclave de Jésus-Christ, à tous les saints dans le Christ Jésus, qui sont à Philippe, avec les surveillants et les serviteurs. Les surveillants et les serviteurs, c'est-à-dire les évêques, les diacres, sont ceux qui sont particulièrement ici désignés pour donner les soins. Mais nous sommes tous engagés dans cette œuvre. Alors si l'apôtre disparaît quant à son service public, mais son œuvre reste, et ses écrits inspirés restent jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'histoire de l'Église sur la terre, jusqu'à la fin du monde en fait, éternellement, puisque c'est la parole éternelle. Et bien maintenant, nous avons les soins de Christ, plus particulièrement Christ lui-même. Et Christ est la ressource et le recours suprême dans les temps de la faim, dans les temps de la faiblesse. Que trouvons-nous dans cette épître, qui est beaucoup moins doctrinale que les deux épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens, au moins aussi précieuses, toutes les épîtres de Paul, toute l'écriture est également précieuse, nous y trouvons des ressources pratiques, nous y trouvons ce qu'est Christ dans notre vie. Christ comme vie au chapitre 1, Christ comme modèle au chapitre 2, Christ comme but et comme énergie dans le chemin de la vie chrétienne au chapitre 3, et au chapitre 4, Christ comme joie, comme bonheur du cœur et comme force intérieure, comme force, comme énergie de l'âme, énergie du cœur. Chapitre 1, c'est la vie, vivre Christ. Notre vie, c'est Christ. Il n'y a point de vie en dehors de Christ. Christ, c'est la vie éternelle, celui qui a le Fils à la vie. Mais en pratique, il s'agit de manifester cette vie dans le chemin, dans la vie chrétienne, au milieu de ce monde. Et c'est le témoignage. Christ est ainsi la vie de notre âme. Christ est-il davantage, chaque jour de notre vie, effectivement le ressort profond de notre vie chrétienne? L'apôtre emploie une autre expression tout à fait remarquable au chapitre 3 de l'épître aux Colossiens, page d'après, c'est il dit « Christ tout et en tous ». Tout en tous, c'est-à-dire comme puissance de vie et en même temps comme source et comme énergie et comme centre même des affections du cœur, des affections de l'âme. Pour moi, vivre, c'est Christ. Alors maintenant, la question se posait pour Paul, et dans une mesure, elle se pose aussi pour chacun de nous, chaque croyant dans ce monde. Eh bien, avait-il à choisir? Non, pas vraiment, c'est Christ qui choisissait pour lui. Mais le terme était proche pour Paul. Il lui restait probablement 4 ou 5 ans à vivre. Il désirait déloger, parce que déloger, être avec Christ, cela est beaucoup meilleur, c'est le terme. C'est un détachement remarquable des circonstances de souhaiter quitter le monde. Et en même temps, dans l'intelligence spirituelle qui lui était communiquée par le Saint-Esprit, Paul ne voulait pas choisir lui-même et savait que son service, s'il était publiquement interrompu, peut-être même terminé, son service devait continuer, ne serait-ce que par la prière, par l'intercession. Eh bien, il était pressé des deux côtés, il aurait voulu en finir, non pas pour en avoir fini des circonstances, mais pour être avec Christ, parce que déloger et être avec Christ, cela est beaucoup meilleur. Alors, quelqu'un a dit que il faut d'abord que le Christ soit notre vie pour que déloger pour nous soit un gain. Autrement, le départ d'une vie manquée n'est pas un moment glorieux. En définitive, nous sommes quand même tous des objets de la grâce de Christ. Alors, Paul ne choisissait pas, il laissait Christ choisir, il savait de toute manière qu'il valait mieux qu'il demeure encore quelque peu ici-bas pour être en aide aux Philippiens et à ceux auxquels il avait, au fond, consacré toute sa vie, toute son énergie, pour le compte de Christ, on peut le dire. Pour moi, vivre, c'est Christ, Christ. Et pour moi, vivre, c'est Christ, mourir est un gain. Déloger, être avec Christ, ça va être beaucoup meilleur. Dans la première partie du premier chapitre, l'expression de la vie de Christ en Paul est remarquablement manifestée par le fait des ressources qu'il appelait de la part de Christ sur ceux qui occupaient son cœur. Il présente une des remarquables prières qu'il a présentées à Dieu pendant sa captivité, de sorte qu'il demandait si dans mes prières, chapitre 1, verset 9, que leur amour abonde encore plus en plus en connaissance et toute intelligence pour que vous discerniez les choses excellentes. Il savait que le travail de Dieu serait achevé dans le cœur des Philippiens. Maintenant, il en revient à ce que serait sa propre part, il savait qu'il resterait, et que souhaitait-il? Eh bien, c'est que son exemple et ses liens n'étaient pas une faible chose pour lui, il était le prisonnier des nations. Il souhaite dans l'épître aux Éphésiens que les Éphésiens qui pouvaient être frappés par les liens de l'apôtre n'en soient pas découragés. En perfection, Christ a réalisé cette chose en plénitude au psaume 22. Les pères sont confiés en toi. Ils se sont confiés et tu les as délivrés. Maintenant, on voyait l'homme Christ Jésus, le serviteur parfait de l'Éternel, qui était pris, qui était condamné. Et la foi n'aurait pu ne pas comprendre. Il était difficile de comprendre comment un serviteur aussi fidèle, qui avait tellement engagé sa vie et son énergie pour Christ, devait payer son service, sa fidélité, de liens qui étaient complètement injustes. Les nations étaient d'une méchanceté incroyable en se saisissant de l'apôtre, et tout ce qu'on a fait à l'apôtre est une faible mesure de ce qu'on a fait en perfection, en puissance de méchanceté à l'égard de Christ. Eh bien, toutes ces choses, l'apôtre les laissait aux soins du maître. Ce qu'il souhaitait, c'est que justement, ceux qui avaient peu de courage pour annoncer l'évangile, eh bien, en voyant les liens de l'apôtre et en voyant en définitive comment Christ s'occupait quand même de son serviteur, eh bien, pourraient avoir plus de courage pour annoncer l'évangile. Et comment aussi, il fallait marcher d'une manière digne, digne de l'évangile du Christ, chapitre 1, le verset 27. Mais pour continuer, dans le chapitre 2, nous avons maintenant Christ comme un modèle. Alors dans ce premier paragraphe du chapitre 2, qui va en définitive introduire les réels appels à la conscience et au cœur pour remettre de l'ordre dans les petites dissensions locales de l'assemblée de Philippe, eh bien l'apôtre va dresser un merveilleux tableau en opposition entre ce qu'a été le premier homme et ce qu'est maintenant le second homme. Ce qu'a été le chemin d'Adam sur la terre, qui était placé ici-bas dans les conditions aussi favorables que possible, et puis ce qu'a été le chemin de Christ, ici-bas. Alors Adam était une créature, sortie parfaite, innocente, des mains de Dieu, formée à l'image et à la ressemblance de Dieu. La pensée de Dieu était de lui confier, de lui donner une femme, une aide qui lui corresponde, sortie de la côte, sous le bras, près du cœur, près des affections, qui soit une aide qui lui corresponde. Qu'ont-ils fait l'un et l'autre? Ils n'étaient que des créatures. Eh bien, ils ont commencé tout de suite à chercher à ravir ce qui n'était pas leur part. Et puis devant les suggestions de Satan, devant la séduction de l'arbre vis-à-vis de l'arbre qui était dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont succombé à la tentation. Alors qu'a fait Christ? Non seulement il n'était pas une créature, c'était le Créateur. Le corps saint et pur de Christ a été formé par Dieu lui-même, creusant des oreilles pour qu'il écoute comme ceux qu'on enseigne. Il était le Seigneur et Maître, vous m'appelez ainsi, vous faites bien car je le suis. Il a pris volontairement la place d'esclave. Il a été le serviteur de l'Éternel, le serviteur qui devait agir sagement. Il était Dieu, béni sur toute chose éternellement. Il est devenu homme, c'est l'anéantissement de la divinité dans l'humanité, l'humanité glorieuse et sainte du Fils de Dieu. Étant homme, il s'est abaissé, anéanti comme Dieu pour être homme, abaissé comme homme pour être serviteur et l'esclave de tous. Il avait toute chose qui lui était due de droit, il n'a rien réclamé, cela fait partie du prix qu'il a payé pour acheter le champ et s'acquérir la perle de très grand prix qu'il connaissait, qui lui plaisait, qui plaisait à son cœur et pour laquelle il devait tout donner pour acheter. Il a été le serviteur, l'homme, c'est-à-dire Adam, m'a acquis comme esclave dès ma jeunesse. Il a été celui dont l'oreille a été percée par le poinçon sur le poteau. Après 6 ans, un serviteur hébreu pouvait sortir libre, libre de toute contrainte. Eh bien, il n'a pas voulu sortir libre. J'aime mon maître, ma femme, mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Il se sentait bien chez lui, Exode 21, Deutéronome 15. Lui qui était Dieu, il a servi. Il a servi jusqu'au bout, servi sans contrainte l'esclave volontaire. À la fin de sa vie, on l'a estimé, le prix d'un esclave. Si cela est bon à vos yeux, donnez-moi mon salaire. Sinon, laissez-le. Jette-le au potier, esprit magnifique, auquel j'ai été estimé par Dieu. 30 pièces d'argent. Chers frères et sœurs, le seul souvenir matériel de la venue de Christ ici-bas, c'est le champ, à Seldama, le champ du sang, le long du Gehinnom, au sud de Jérusalem, au pied de la montagne de Sion et la montagne de David. là où la sépulture des étrangers est assez bonne pour eux. Voilà ce que le monde a réservé à Christ, le serviteur de l'Éternel. Eh bien, Christ n'a pas réclamé ses droits ici-bas. Alors lorsque nous nous disputons avec le monde, lorsque nous sommes chatouilleux à l'excès, je le dis pour moi-même, lorsque on ne pense pas que le monde nous traite comme il devrait le faire, eh bien on a intérêt à penser à Christ, qui était infiniment plus noble, infiniment plus glorieux que chacun d'entre nous, et qui n'a réclamé aucun de ses droits. Il est venu pour servir, il a servi, il a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Alors, en raison de cela, son obéissance jusqu'à la mort et à la mort de la croix, la mort ignominieuse, la mort honteuse, il a bu l'ignominie et la honte sur la croix, sans rien dire. En raison de cela, le Père l'a haut élevé. Et ce nom de Jésus, qui rappelle le nom de son abaissement, le pauvre charpentier de Nazareth, le charpentier, le fils du charpentier, eh bien c'est un homme qui sera haut élevé. Et cette gloire, c'est une gloire divine qui lui est donnée à Christ comme homme. Le fils de l'homme sera un jour élevé. Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, si bien le souvenir de son abaissement, tout genou se ploie, de tous les êtres, célestes, tous les anges, déchus ou saints, toutes les créatures terrestres et les créatures infernales. Chose remarquable, dans ces trois ordres de créatures, célestes, terrestres et infernales, les deux premières seules, parmi les deux premières seules, sont les élus. Il n'y a aucune restauration, aucune réconciliation pour les créatures infernales. Nous lisons au verset, dans le chapitre Colossiens 1, verset 20, il a réconcilié toutes choses avec la plénitude de la divinité, avec elle-même, ayant fait la paix par le sang de sa croix, par lui, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux. Alors, toutes les créatures, un jour, reconnaîtront que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, au verset 12, à partir du chapitre 2, verset 12, ce sont les conséquences pratiques. Les choses tout à fait remarquables, cet épître présente le salut comme étant au bout de la course. Alors, ne concluons pas ce qui est trop souvent enseigné dans l'Église multitude, que c'est par des œuvres que nous avons à accomplir notre salut. Simplement, il s'agit du salut de la course, non pas du salut de l'âme. Un salut complet qui comprend le salut de l'âme, le salut de la course et le salut du corps. Et on trouve bien ces choses, dans ces trois choses dans l'Épître aux Philippiens. Le salut du corps se trouve à la fin du chapitre 3. Il transformera le corps de notre abaissement, la conformité du corps, de sa gloire, selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir même toute chose. Salut de l'âme est par la foi en Jésus-Christ. Le Fils de Dieu m'a aimé, s'est livré lui-même pour moi, devant la communication gratuite, sur le pied de la justice, de la grâce, de la rédemption accomplie, de Christ lui-même comme vie à la conversion. C'est le salut de l'âme. Il reste ensuite la course chrétienne. Elle a été d'une heure seulement pour le brigand sur la croix, elle a été de plusieurs dizaines d'années pour Paul, elle est pour la plupart d'entre nous longue. Le chemin est très long. Il faut quelquefois le gâteau sur les pierres chaudes et la cruche d'eau pour nous soutenir lorsque nous sommes découragés. Le chemin est très court lorsqu'on rejette un peu en regard en arrière, nous qui avançons quand même rapidement vers la fin, ou vers en tout cas l'âge plus que mûr, on voit que la course chrétienne est une course rapide, les choses sont vite passées. Et en même temps, la course est trop longue parce que sans Christ, il y a bien des occasions de le déshonorer et de perdre notre vie. Disons en passant qu'il y a une différence entre achever l'œuvre et achever la course. Achever l'œuvre, c'est Christ qui l'a achevé, il est le seul à l'avoir fait. Les uns et les autres, les hommes de foi, dans les générations passées, dans les dispensations antérieures ou dans la dispensation chrétienne, ont coopéré à faire à l'œuvre. Ils ont servi au conseil de Dieu, expression remarquable employée par Paul, sauf erreur en acte 13, à l'occasion de David, ayant servi au conseil de Dieu, s'est endormi. Mais l'œuvre n'est en fait achevée que par Christ. Le signe d'un acte, d'une œuvre divine, c'est que l'œuvre est achevée. Il achèvera verset 6 du chapitre 1, soit en rédemption, soit en création, soit dans l'œuvre de la grâce dans les croyants, soit aussi exceptionnellement en jugement. Lorsqu'il est question du jugement des fils d'Élie, ce que Dieu avait commencé, il l'achèverait en jugement parce que le jugement était nécessaire. C'était une forme de sa gloire. Pour nous, il ne s'agit pas d'achever l'œuvre. C'est Christ qui accomplit cette œuvre par les instruments divers qu'il se désigne pour lui-même. Nous avons achevé la course. Et de ce point de vue-là, un ancien et un vieillard sont deux choses différentes. On peut très bien avoir passé sa vie autrement que pour servir Christ et arriver à son terme sans avoir guère saisi ce qu'était la course chrétienne. Alors, pourvu que j'achève ma course, le service que j'ai reçu de la part du Seigneur, afin qu'il l'accomplisse, c'était le souhait précieux, intime de l'apôtre qu'il exprime en ouvrant son cœur aux anciens d'Éphèse en acte 20, et il peut dire à son cher enfant Timothée en 2 Timothée 4, eh bien voilà, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Nous en arrivons ici au terme de la vie, au terme de la course. Le salut, de ce point de vue-là, est placé au terme de la course. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de si dans les épîtres du Nouveau Testament, et surtout dans les épîtres de Paul. Quant à la position devant Christ, devant Dieu, tout est parfait, tout est irréprochable. Nous sommes aussi irréprochables et irrépréhensibles devant Dieu en amour que nous le serons lorsque le Seigneur se présentera à son assemblée glorieuse à lui-même, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais par quel chemin arriverons-nous là? Quel est l'état effectif de nos vies, de notre marche, de nos cœurs, de nos affections, de notre robe, puisqu'il s'agit souvent dans les vêtements de la profession et du témoignage extérieur? Alors que travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire. Il s'agit donc de la course chrétienne. Nous avons un modèle, nous avons quelqu'un que nous avons à imiter, et avant toute chose, c'est le modèle de l'humilité parfaite, du serviteur de l'Éternel. Ensuite, pour marcher, il faut un but, il faut savoir où nous allons. Alors c'est cette épître qui est, je crois, la plus belle de toutes les épîtres pour nous montrer comment, en même temps, Christ est celui vers lequel nous nous dirigeons et ce qui est celui qui nous soutient dans la vie chrétienne. Il est en même temps celui qui est notre ressource suprême dans les circonstances de la vie, et en même temps nous savons où nous allons. Alors l'apôtre, probablement le même, bien que l'épître aux Hébreux ne soit pas signé, nous dit quelque chose qui complète le tableau de l'épître aux Philippiens lorsqu'il parle de Jésus qui est entré dans le ciel et qui est notre précurseur court pour nous et qui est l'ancre de l'âme sûre et ferme. C'est une image probablement en Hébreux 6 de ce qu'était autrefois la ville de refuge pour les Israélites qui étaient coupables d'une mort sans préméditation. Il y a une ancre de l'âme, il y a un Christ maintenant qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, qui est le souverain sacrificateur, mais qui est aussi l'ancre de l'âme sûre et ferme, et c'est vers lui que nous allons pour nous enfuir en saisissant l'espérance proposée, de sorte que la pleine assurance de l'espérance soit réalisée dans les chrétiens. Alors, que fallait-il faire pour que Christ devienne non plus seulement le modèle, mais le but de notre course? Eh bien, il y a des choses auxquelles il fallait renoncer. Est-ce qui était le plus précieux à Paul avant sa conversion? Il avait été obligé d'en faire le renoncement complet pour gagner Christ. Alors pour lui, qui était un pharisien, fils de pharisien, élevé au pied de Gamaliel, un pharisien, il était, c'était un homme de la tribu de Benjamin. Benjamin, incidemment, d'ailleurs, est souvent synonyme de la violence. Et c'est, Paul avait certainement un caractère personnel extrêmement affirmé. On le voit d'ailleurs lorsqu'il a perdu sa contenance devant le souverain sacrificateur qui ne l'a pas reconnu devant le Sanhédrin, avec des paroles qu'il regrette probablement. Alors nous avons un Paul qui était, quant à la connaissance, autre chose qu'un homme simple, un homme tout à fait remarquable, qui avait acquis une connaissance dans la loi, dans tous les écrits des Juifs extraordinaires, qui tenait fermement à tout ce système juif qui était actuellement complètement désuet et qui allait disparaissant, qui était remplacé par une autre dispensation où Christ prenait, on peut le dire, la place de la loi. Et Paul doit désapprendre tout ce qu'il a appris et considérer ces choses comme des ordures. Pourquoi? Pour gagner Christ. Alors, nous n'avons pas les mêmes renoncements parce que nous n'avons pas été attachés à ce même système, et certainement nous n'avons pas l'énergie de l'apôtre pour, avant sa conversion, pour garder ces choses avec une telle opiniâtreté. Mais certainement, dans la vie chrétienne, dans la vie tout court, nous avons des choses que nous avons à désapprendre pour être des chrétiens fidèles. Et pourquoi? Bien, il est impossible que le cœur soit vide. On ne remplace dans notre cœur quelque chose qui n'est pas à la gloire de Christ que dans la mesure où Christ prend une place plus grande. Notre cœur n'est pas vide, il faut qu'il déborde. Et si le cœur déborde de Christ, eh bien, Satan ne versera rien du tout dans la coupe de notre cœur. Ici, nous avons les choses qui, pour l'apôtre, étaient une perte, étaient un gain, sont devenues pour lui une perte afin de gagner Christ. Il considère les choses comme des ordures. C'est un acte qui est une conséquence de la foi de Paul, de l'énergie de sa foi, de rejeter ces choses qui ne sont pas pour lui un gain, qui sont même pour lui une perte. Alors la conséquence, on la trouve dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 4, sauf erreur, eh bien c'est que si vraiment le monde se rend compte qu'on n'apprécie pas les choses que le monde aime, bien naturellement nous deviendrons les balayures du monde. C'est une chose qui est infiniment plus sensible pour l'âme de réaliser que nous sommes les balayures du monde, beaucoup plus que de considérer le monde et les choses du monde comme des ordures. Et en définitive, Paul avait quelque chose à gagner, il voulait gagner Christ, il avait une justice qui n'était pas celle de la loi, parce que la justice de la loi condamnait, c'était une justice maintenant qui était justifiante, qui était vivifiante, et qui l'amenait dans la présence de Christ, pour le connaître lui, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Il y a une différence entre Paul et Pierre, dans leur estimation de ces choses. Ici, Paul, le connaître lui, Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Il n'avait pas été, comme les 12, comme les 11 en tout cas, témoin des souffrances de Christ. Et c'est ce que dit Pierre dans sa première épître, chapitre 5, moi qui ai été témoin des souffrances de Christ, qui est part à la gloire à venir, qui doit nous être révélée. Ici, le connaître, lui, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort. On retrouve la pensée qui est exprimée dans ces trois passages connus de Colossiens 3, Romains 6 et 2 Corinthiens 5. Eh bien, c'est la puissance expérimentale et pratique de la mort de Christ pour nous libérer d'abord de nous-mêmes, nous libérer du joug de la loi, du système de ce monde, de la chair, de la mort, de la loi, de nous-mêmes. Vous êtes morts, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Tenez-vous vous-même pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus. Que fait Paul expérimentalement? Et la raison, en fait, le fait qu'il ait réalisé ces choses en pratique, lui donne l'autorité morale pour nous les enseigner. À la mesure où nous serons soumis à l'Écriture dans notre vie, eh bien nous aurons une capacité de témoignage et une autorité morale pour parler à d'autres, au monde en particulier. Alors portant toujours partout dans le corps le mourir, la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair, dans notre corps. C'était être conforme à sa mort. Et puis, il y avait devant lui la résurrection. Le terme qui sera le moment où le corps de notre abaissement sera transformé en un corps de gloire, selon la puissance de Christ qui l'a de s'assujettir même toute chose. Alors, entre ce moment où Paul a mis de côté les choses du monde pour les considérer comme des ordures pour gagner Christ, où au moment glorieux de la première résurrection, il sera transformé, emmené avec les élus, avec les vivants, avec les saints endormis, transmués, avec les saints ressuscités, avec les saints vivants, transmués, eh bien, dans cette attente, il y a un but, c'est Christ. Ou bien les choses qui sont derrière, tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but, pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Je dois suggérer à nos chers jeunes qu'ils apprennent dès leur jeunesse une leçon, c'est-à-dire lorsqu'il est question ici d'oublier les choses qui sont derrière et de tendre avec effort vers celles qui sont devant, effectivement, soit dans les choses du monde, mais avant tout dans les choses de la vie chrétienne, il ne faut pas se nourrir du passé, et sauf le passé a été l'occasion pour nous d'apprendre des leçons en la présence de Christ. Lorsque ces choses sont apprises, on oublie les choses du passé et on tend avec effort vers celles qui sont devant. Le souvenir de la grâce de Christ, cette miséricorde, est toujours maintenue, renouvelée dans le cœur. Mais dans la mesure où on se nourrit de ses fautes, se nourrit de ses insuffisances, de ses faiblesses, on ne progresse guère. L'apôtre indique ici, c'est en oubliant les choses qui sont derrière qu'il tend avec effort vers celles qui sont devant. En pratique, c'est la puissance de Christ expérimentalement goûtée dans la vie chrétienne. Alors il y a un double ressort au chapitre 4, c'est la joie et la force. Et chose remarquable, ces deux facteurs vont ensemble. La joie de l'Éternel sera votre force, c'est-il dit en Néhémie lorsque le peuple pleure justement sur l'abandon de la loi. Ne vous affligez pas. La joie de l'Éternel est votre force. Personne n'aurait pu être plus mal placé, humainement parlant, que Paul pour nous parler de la joie, puisqu'il était seul, prisonnier, âgé. Et je crois qu'il y avait à ce moment-là un soldat romain qui le gardait. Il n'avait aucun moment à lui. Il voyait son œuvre extérieurement anéantie. Il était tout seul avec ses pensées, mais il avait Christ avec lui. Et il peut dire ainsi, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La joie ne passe en dehors de Christ. Autrement, c'est une joie factice, une joie éphémère, et qui ne laisse après, justement, que regrets et dégoût, peut dire un de nos cantiques. Au contraire, la joie goûtée avec Christ, elle est éternelle. Si cette joie accomplit la joie de Christ, que Christ a déjà promis à ses chers disciples, à la nuit même où il est livré, dans les dernières paroles qu'il leur a données. Oui, chapitre 14 à 16 de l'Évangile selon Jean. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, encore une fois, je vous le dirai. Auparavant, dans le premier paragraphe du chapitre 4, l'apôtre avait touché quelque chose, et mon beau-père disait que cet épître aux Philippiens, expérimental avant tout, était l'épître du lavage des pieds. Et il faut d'abord que Christ soit présenté dans ses différentes gloires, dans cette gloire suprême de son abaissement, pour que les deux sœurs qui avaient un différent, probablement il y avait d'autres choses dans cette assemblée, bien qu'il y ait eu beaucoup d'énergie et beaucoup de fidélité à Christ, pour que ces deux sœurs revoient leur voix, revoient leur situation ensemble, et qu'elles aient une même pensée dans le Seigneur. Tout est toujours rapporté au Seigneur. Qu'il y ait quelque consolation en Christ, quelque soulagement d'amour, quelque communion de l'esprit, quelque tendresse et quelque compassion. Chapitre 2, verset 1. Et au chapitre 4, maintenant, l'apôtre applique ces choses à ces deux sœurs qui avaient un différent. Alors, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Deux choses sont promises lorsque les prières sont présentées, sans s'inquiéter, mais avec confiance. Lorsque nous présentons nos requêtes à Dieu avec des prières et des actions de grâce, alors la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. La douceur est un caractère du chrétien, c'est ce caractère de celui qui n'insiste pas sur ses droits. La douceur, la débonnaireté du Christ, cette douceur qui était le caractère de Moïse, qui pourtant, une ou deux fois, s'est mis dans une ardente colère. Non pas seulement devant le Pharaon, mais même à l'égard des fils d'Israël, devant tant d'infidélités. Mais la douceur, elle doit être connue de tous les hommes. Insister sur nos droits n'est pas un témoignage que le chrétien peut rendre à Christ dans ce monde. Et alors, comme il faut que la ressource vienne de Dieu, vienne de Christ, c'est par des prières, des supplications. La prière est l'arme offensive du chrétien avec la parole. Et bien, cette prière qui exprime notre dépendance de Dieu est la source pour nous d'une paix intérieure, une paix qui était goûtée par Paul au fond de sa prison et qui peut être goûtée dans la vie quotidienne de chacun de nous. La paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. L'autre côté, c'est lorsque, effectivement, dans un bon état moral, nous réalisons, nous marchons dans les choses qui plaisent à Dieu, toutes ces choses qui sont décrites au verset 8, alors c'est le Dieu de paix qui sera avec nous. Je n'entre pas dans les détails, l'expression se trouve, sauf erreur, 7 fois dans les épîtres de Paul, et cette expression du Dieu de paix, ou Seigneur de paix, Thessaloniciens 5, est une expression caractéristique des épîtres de Paul. Elle est d'ailleurs utilisée en Hébreux 13, qui confirmerait, bien que la parole ne le dise pas, que Paul est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ce qui ne change rien, ni dans un sens ni dans l'autre, à l'autorité de l'apôtre et l'autorité de cet Épître, inspiré comme les autres. Le Dieu de paix alors sera avec vous. Nous avons la paix de Dieu dans notre cœur, et nous avons la communion avec celui qui est avec nous comme le Dieu de paix. C'est le caractère des prophètes fidèles d'autrefois, l'Éternel devant qui je me tiens, et vivant. Le Dieu de paix est avec nous. Dieu est avec Joseph, David, Ézéchias, sauf erreur, avant tout avec Christ. Mais pour Christ, Dieu était avec lui, il y avait quelque chose de plus, Dieu était en lui, Dieu est en Christ. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Alors au fond de sa prison, Paul n'avait guère de ressources, il avait la joie intérieure, la communion avec son Sauveur, avec Christ, mais il était quand même capable de tout. Et avec la joie et la force, nous avons dans ce dernier chapitre, la supériorité pratique du chrétien sur les circonstances. J'avoue qu'après bien des dizaines d'années de vie chrétienne, je ne peux pas dire en être là, mais quand même. Christ est la seule joie de notre cœur, mais aussi il a la seule force du chrétien. Je puis toute chose en celui qui me fortifie. Pour que cette force s'exerce, il faut que ma puissance soit mise de côté et que notre propre faiblesse soit acceptée. Quand je suis faible, alors je suis fort. Ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Un frère qui est mort il y a quelques années, après de profondes souffrances, pouvait dire qu'il fallait pratiquement toute la vie pour comprendre les deux phases de 2 Corinthiens 12. Ma grâce te suffit, mais ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Je me réjouirai, je me glorifierai. Paul trouvait sa joie, la joie de son cœur, à sa propre faiblesse, parce qu'alors c'était l'expression d'une puissance évidente, venue d'ailleurs, c'est-à-dire venue de Christ. Je puis toute chose en celui qui me fortifie. Néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. Paul était détaché de tout, il n'avait besoin de rien dans sa prison, et pourtant, le parfum du don qu'avaient envoyé les Philippiens, alors que personne ne s'était occupé de lui, ni les riches Corinthiens, ni d'autres, eux qui étaient dans la de Macédoine, qui avaient, dans une extrême pauvreté, donné de leur propre pauvreté pour les secours de l'apôtre, eh bien, ce parfum du don des Philippiens n'était pas perdu pour la gloire de Christ. Que la grâce de Christ soit avec nous jusqu'à la fin.